On parle de réchauffement climatique et finalement, quand on roule avec des végétaux, on ne contribue pas au réchauffement de la planète. Alors, j'aimerais bien que vous nous expliquiez pourquoi vous dénoncez ces biocarburants.
Oui, je croyais de bonne foi que les biocarburants sont bons pour le climat, pour la crise climatique. Et c'est encore ce que prétend la propagande. Je parle de propagande à dessein. Donc, la propagande en faveur des biocarburants dit « c'est génial, il y a un bilan neutre ». Vous voyez, les plantes qu'on utilise pour faire des biocarburants, elles fixent du carbone dans leur tige au moment de leur croissance. Elles fixent ce carbone et quand elles sont transformées en carburant et quand elles sont utilisées dans les moteurs, évidemment, cela recrache le carbone sous la forme de gaz carbonique.
C'est un cycle fermé du carbone.
Voilà,
en
exactement.
Quelque sorte.
Donc ça renvoie dans l'atmosphère sous la forme d'un gaz le carbone qui avait été stocké pendant la période de croissance. Et donc, disent les propagandistes, c'est parfait. C'est un bilan neutre. Donc ce dont la plante a besoin, elle l'évacue ensuite et ça ne contribue pas au réchauffement de la planète. Donc c'est fabuleux. Allons-y, courons vers les biocarburants.
Si donc vous avez enquêté et vous dites
oui.
C'est pas le cas.
Non, c'est
pourquoi
pas le cas. Mais si vous voulez, ce ne sont pas des divagations de moi, Fabrice Nicolino. Ça n'aurait pas vraiment beaucoup d'intérêt. Je le crains. Il y a des études, les seules qui soient indépendantes du lobby industriel en faveur des biocarburants, des études assez implacables en fait. Je vais citer deux professeurs américains, l'un américain, l'autre canadien, de réputation mondiale. L'un s'appelle David Pimentel et le second s'appelle Tad Patsek. Et ces deux scientifiques, encore une fois, de réputation mondiale, ont réalisé de nombreuses études qui, à la différence des études incomplètes qui circulent, prennent en compte la totalité de la fabrication, du cycle de fabrication des biocarburants. Et là, ça change radicalement tout.
Alors, expliquez-nous ça. Prenons l'exemple d'un champ de maïs.
Oui, alors un champ de maïs. Il faut voir, évidemment, un champ de maïs destiné au biocarburant, il faut voir concrètement ce qu'il remplace. Le plus souvent, ça sera un champ de maïs, en effet. Mais dans un nombre de cas croissant, c'est un champ qui sera planté en maïs destiné au biocarburant sur une surface qui avait une destination différente au départ. Par exemple, une forêt,
oui.
Un bout de forêt.
Donc on déforeste.
Oui, mais quand on déforeste, et le champ de maïs n'est pas forcément le meilleur exemple, mais quand on déforeste, par exemple, massivement dans des pays comme l'Indonésie. L'Indonésie, savez-vous, est devenue, au mois de juillet de cette année, le troisième émetteur de gaz à effet de serre de toute la planète, l'Indonésie.
Car on déforeste et on plante des palmiers à huile.
Exactement. Exactement, sur des millions d'hectares. Moi, il m'a fallu du temps pour comprendre la dimension du phénomène. Je parle de millions d'hectares en Indonésie. Alors, qu'est-ce qu'ils font ? En Indonésie, c'est simple. Le commerce du bois est entre les mains, allons vite, de mafieux, de gens qui, sans foi ni loi, qui ne pensent qu'à gagner de l'argent. Donc, ils achètent ou ils pillent une forêt tropicale, pluviale. C'est un écosystème absolument prodigieux.
Et parfois des forêts très anciennes.
C'est souvent des forêts primaires, c'est-à-dire des forêts qui n'ont pas été pratiquement pas été touchées par l'homme, et c'est des écosystèmes uniques au monde. Bon, ces mafieux arrivent, ils brûlent la forêt. Ça, c'est le premier point. Il faut la brûler sur pied pour pouvoir mettre des palmiers à huile à la place. À cause de ces incendies, d'ailleurs, jusqu'à la Malaisie, qui est pourtant distante de centaines de kilomètres, connaît des jours de smog épouvantables dans les villes principales du pays, à des centaines de kilomètres de là, parce qu'on brûle massivement la forêt tropicale. Mais dans cette forêt tropicale, outre qu'il y a des espèces, bien sûr, des animaux, les orang-outans, les éléphants d'Asie, et puis beaucoup d'insectes, de petits mammifères, d'oiseaux, que sais-je, eh bien, il y a du carbone, évidemment, qui est, stocké dans les racines des arbres, dans les arbres eux-mêmes, dans les feuilles, dans le sol, éventuellement. Si vous commencez par brûler tout ça, vous émettez des quantités extraordinaires de gaz carbonique qui, évidemment, aggrave l'effet de serre.
Donc, premier point. Deuxième point, on plante. Et pour planter, on vient avec des machines.
Et oui, si vous voulez, c'est toujours la même chose. Les propagandistes oublient ce que ça signifie des plantations industrielles. Parce qu'on parle de plantations industrielles. Ben, pour faire des plantations industrielles, on vient en effet avec des machines. Il faut inclure le coût, et ça se calcule, c'est compliqué, mais ça se calcule, le coût le coût écologique, énergétique, de l'intrusion dans des territoires très lointains, d'engins de toutes sortes, qui utilisent massivement quoi ? Des engrais et des pesticides. Il n'y a pas de miracle. Si vous voulez faire pousser rapidement des plantes industrielles, il faut des engrais et des pesticides. Donc ce bilan-là n'est pas prise en compte par les propagandistes.
Et les engrais et les pesticides eux-mêmes émettent des gaz à effet de serre, il faut les produire aussi.
Absolument, absolument. Et autre point, puis je ne veux pas vous encombrer l'esprit avec ça, mais autre point qui est décisif, vraiment décisif, quand on plante des palmiers à huile sur d'anciennes tourbières, c'est le cas massivement en Asie du Sud-Est, dans les tourbières, il y a d'autres gaz à effet de serre, le protoxyde d'azote, qui par exemple, qui sont 300 fois plus réchauffants que le gaz carbonique lui-même. Alors tout ça, vous remettez ça en circulation à l'atmosphère, il est évident que le bilan à l'arrivée est purement catastrophique.
Donc les biocarburants, c'est une catastrophe.
Excusez-moi.
Les embouteillages de voitures qui roulent avec de l'essence ou du diesel aussi, c'est une catastrophe pour la planète.
Écoutez, c'est déjà une catastrophe pour les humains qui subissent ça tous les jours. J'ai un frère aîné, je ne sais pas s'il m'écoute ce soir, mais en tout cas j'ai un frère aîné qui a longtemps été réparateur de chaudières à mazout et qui a passé la moitié de sa vie, peut-être pas la moitié de sa vie, mais un temps considérable de sa vie active en bagnole sur le périphérique parisien. Je ne pense pas que ce soit très gai pour les victimes directes de ce phénomène, mais bien sûr pour la planète également, puisque la bagnole contribue de façon considérable à nos émissions de gaz à effet de serre.
Et en tout cas, il y en a qui en font. Les biocarburants, c'est parce que on arrive à la fin du pétrole quand même, hein, Fabrice Nicolino.
Ça, c'est un argument que je récuse. Bien sûr qu'on arrive à la fin du pétrole, mais c'est pas pour ça du tout qu'on a lancé les biocarburants. On a lancé les biocarburants en France parce qu'on avait des problèmes de surproduction de céréales. Voilà, c'était en 92.
Fabrice Nicolino, le prix des céréales, vous l'avez constaté à travers votre enquête, a déjà fortement augmenté à cause de ces biocarburants.
Oui, c'est pas un point très très drôle, je m'en excuse auprès des auditeurs, mais c'est en même temps un point fondamental. Je vous le disais en préambule, c'est vraiment ça qui m'a mené à ce
travail. C'était le point de départ, oui, de
ouais,
l'enquête.
Je ne supporte pas, en tant qu'humain, en tant que simple humain, en dehors de toute considération politique, je ne supporte pas l'idée qu'on puisse faire rouler des voitures avec des plantes alimentaires dans un monde où, je le répète, il y a
tout
un milliard
d'infirmiers
chroniques. Un milliard. Alors, oui,
et des milliers d'enfants qui chaque jour meurent de faim.
Mais bien sûr. Mais ça, si vous voulez, bon, c'est abstrait, c'est lointain. On balaye ça d'un revers de la manche. Mais moi, je pense à ces gens-là. Que voulez-vous ? Je pense à ces gens-là. Bref. Alors, le marché alimentaire mondial, c'est un marché qui est très tendu depuis des années. Pour deux raisons fondamentales. Il y a d'une part le dérèglement climatique qui commence vraiment à changer la donne sérieusement. C'est-à-dire ça devient plus difficile de cultiver. On ne peut plus compter sur le climat comme auparavant. On a des surprises, ça va mal. Et ça ira, à mon avis, hélas, de plus en plus mal. D'une part, le dérèglement climatique et d'autre part, une demande qui explose, une demande alimentaire qui explose parce que la population augmente et aussi parce que les besoins de cette population changent. La Chine, par exemple, il y a 200 ou 300 millions d'habitants qui ont un niveau de vie en croissance très élevé. Les autres croupissent dans la misère. Cela, on n'en parle pas, mais il y a 200 ou 300 millions d'habitants en Chine qui voient leur diète alimentaire, leur ration alimentaire changer massivement et très rapidement. Donc eux, ils réclament de nouveaux produits alimentaires, dont des céréales, massivement.
Des céréales et plus de viande.
Et bien sûr. Et donc le marché alimentaire, qui était tendu pour ces deux raisons-là, dérèglement climatique et demande en explosion, a été totalement déstabilisé par l'éruption des biocarburants. Déstabilisé en deux ans, tout a changé. Et le prix des céréales explose, celui du maïs, celui du blé, d'à peu près toutes les céréales existantes sur le marché. Pourquoi ?
Ouais.
C'est une raison très simple. Tout a commencé aux États-Unis. Je vous le disais tout à l'heure et je le répète, le maïs consacre 25% de sa production de maïs
aux voitures,
aux biocarburants. Et donc cette masse colossale de maïs est soustraite au marché alimentaire mondial. Et par un effet de contagion dans ce marché tendu, et de substitution avec d'autres céréales, eh bien, par un effet de cascade, si vous voulez, le prix des céréales s'est envolé. Mais envolé, c'est-à-dire le prix du blé, très grossièrement, il faut retenir qu'il a été multiplié par 3. Le prix du maïs a doublé. Et d'ailleurs, il y a des effets colossaux, immédiats.
Au Mexique,
exemple. En janvier 2007, donc c'était cette année, en janvier 2007, il y a eu une révolte au Mexique que j'ai suivie d'assez près, qu'on a appelé là-bas la révolte de la tortilla. La tortilla, c'est une galette de maïs. Évidemment, tous les pauvres mangent du soir au matin des tortillas. Et le prix de la tortilla, à cause de ce boom aux États-Unis, s'est mis à flamber au Mexique. Et pour les pauvres, évidemment, quand le prix de la tortilla flambe, eh bien, on se serre la ceinture davantage. Il y a une révolte. Il y a eu des manifestations monstres et il y a eu un début vraiment d'émeute et le gouvernement en place, de, le parti d'action, il y a eu un truc marrant d'ailleurs, et les gens défilaient au nom de, enfin, défilaient en faisant un jeu de mots sur PAN, qui veut dire pain en espagnol, et qui veut dire aussi Parti d'Action Nationale, le parti au pouvoir. Il disait oui à la tortilla et non au pan, avec ce double mmh. sens. Et le gouvernement mexicain a pris peur, et à juste titre selon moi, parce qu'on se souvient depuis 1789 en France que le prix des céréales, ça compte dans l'histoire, et il a importé massivement et à bas prix du maïs pour calmer les gens. Mais ça, c'est la première révolte, disons, officiellement connue des biocarburants. Il y en aura d'autres. Je lisais il y a deux jours un texte de la FAO qui annonce pour les mois à venir des révoltes de la faim en relation directe, dit la FAO, avec l'explosion des biocarburants.
Car ces biocarburants poussent majoritairement dans les pays du Sud, la canne à sucre, le palmier à huile, non ?
Oui, 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 c'est-à-dire qu'il y a des surfaces, vous comprenez bien, il y a des surfaces, c'est-à-dire que, si vous voulez, dans les pays du Sud, c'est plus simple, c'est atrocement plus simple que dans les pays du Nord. Je vous parlais des mafieux qui tiennent le commerce du bois en Indonésie, c'est sûr que les paysans n'ont pas leur mot à dire. Qui tient le pouvoir dans un très grand nombre de pays du Sud ? Des gens qui sont appuyés sur l'armée ou sur la police, qui font un peu la loi. Il y a des surfaces énormes qui sont disponibles, entre guillemets.
Et revenons à la France, est-ce qu'on pourrait être indépendant énergétiquement avec les biocarburants ?
Non, bien sûr que non, évidemment que non. D'une part, il s'agit simplement du carburant des bagnoles et des cars et des camions.
Hein. Oui. Je veux dire, c'est, oui, on ne parle pas de l'électricité, on ne parle pas des trains dont il était question tout à l'heure.
On parle pas de l'énergie en tant que telle, si vous voulez, mais seulement des carburants, et seulement donc du transport. Mais il y a des calculs de Jean-Marc Jancovici sur lesquels je ne m'étends pas, qui est un politicien bien connu et qui anime un site très couru sur le net, hein, manicor.com. Et Jancovici a calculé ça, disons, pour faire rouler nos bagnoles avec des biocarburants, évidemment, il faudrait planter 55 millions d'hectares en France, c'est-à-dire la totalité et je crois que ça ne suffirait même pas, mais en tout cas, il faudrait planter tout. La surface française est totalement exclue, bien entendu. Non. La réponse est clairement non.
Fabrice Nicolino, il vous en a fallu, vous, du courage pour ce livre, La faim, la bagnole, le blé et nous ?
Non. Franchement, non. Non,
ça a été facile d'enquêter ?
Relativement. C'est-à-dire les gens sur qui les gens et les CIEM sur lesquels j'ai enquêté n'ont pas honte de ce qu'ils font. Ils sont soutenus en haut lieu. Non, ça n'a pas été trop difficile. Il y a beaucoup de sources ouvertes. Bon, c'est un vrai travail. Hein. Je ne veux pas non plus dire que ça a été simple comme tout. Non, ça serait mentir. Mais c'était relativement facile.
Donc il y a ce livre et puis il y a un site que vous alimentez très très régulièrement, fabrice-nicolino.com, sur les biocarburants.
Oh, je l'alimente chaque jour en ce moment et c'est vraiment compliqué. Mais il y a un site, donc fabrice-nicolino.com, où je parle un peu de tout, et un autre qu'on peut trouver sur ce même site, évidemment, et qui est dédié au livre sur les biocarburants. Oui.
Fabrice-nicolino.com, votre livre, La faim, la bagnole, le blé et nous, une dénonciation des biocarburants. Le livre est paru chez Fayard. Merci beaucoup pour cette heure passée en votre compagnie.
C'était très agréable.
Et c'était très intéressant aussi. Merci Fabrice Nicolino.